On a deux cas très différents et qui vont chacun connaître une insurrection avec des timings qui sont pas du tout les mêmes, hein. En Slovaquie, l'insurrection est un échec militaire, mais un succès politique. Pour les Slovaques, c'est très avantageux. Enfin, quelque part, ils sont réintégrés dans le pacte binational. Donc, c'est vraiment essentiel, c'est fondateur pour leur réintégration. Et côté tchèque, les possibilités militaires sont très limitées pendant la guerre. Il faut imaginer qu'il y a bien sûr, à partir du mois de mars-avril 1945, un certain nombre de troupes, de partisans qui se constituent dans la campagne tchèque, intégrant bon, bien sûr des Tchèques, mais aussi souvent des prisonniers de guerre soviétiques, hein, qui se sont évadés, qui pouvaient être employés, etc. Voilà. Mais dans des conditions très dures et qui donc, mais ça reste un phénomène numériquement assez peu important. Il est important symboliquement, mais militairement, ça compte pas beaucoup. Et surtout, la Bohême-Moravie en 1945, c'est en gros le fameux quadrilatère de Bohême, c'est le dernier endroit, à part la Norvège en gros, où les troupes allemandes se regroupent
Masse.
en masse. Il y a 1 million d'hommes à peu près en Bohême-Moravie en début mai 45.
Pour un petit territoire, en fait,
Pour
finalement.
un territoire assez petit et complètement encerclé,
Bien
hein,
sûr.
de toutes parts. Et donc, c'est un peu, enfin, c'est le paradoxe, c'est que l'insurrection de Prague dont on va parler, je préfère dire insurrection, Povstanie, va éclater au milieu de cette espèce de concentration de troupes allemandes, de concentration monstrueuse de matériel, de munitions. Avec des moyens relativement dérisoires, mais comme dans le cas slovaque, même si dans le cas slovaque il y avait une perspective militaire assez nette, il fallait faire le lien avec les forces soviétiques, mais dans ce cas-là, l'espoir est aussi de montrer qu'on participe à sa propre libération et de pas rester à attendre tranquillement les bras croisés que les chars soviétiques ou américains arrivent.
Et c'est important en fait ce que vous dites en effet parce que il faut rappeler que pourquoi aussi en fait finalement la résistance tchèque pour le coup est aussi petite aussi minoritaire, c'est parce qu'il y a eu d'énormes répressions notamment après l'attentat contre Reinhard Heydrich en 1942 qui a complètement éliminé en fait grosso modo le peu de résistants qu'il y avait déjà quoi.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a la répression, il y a le terrain qui est pas très favorable, hein, parce qu'on est quand même, c'est pas le
C'est
Massif
un pays
central
occupé.
ou la Biélorussie
Bien sûr.
en termes topographiques et voilà, il y a peu de refuges en fait
Il n'y a
en
pas
zone
moyen de
dangereuse.
créer des maquis, en fait, c'est ça.
Il y a pas moyen de créer des maquis. Les endroits où il y a des montagnes, il y a des germanophones essentiellement, donc c'est très compliqué. Et puis par ailleurs, effectivement, la répression de la Heydrichova, elle touche notamment les chefs militaires, pas très doués pour la clandestinité, il faut le dire, du mouvement notamment Obrana Naroda, donc Défense de la Nation, qui est le principal mouvement de résistance un peu militaire qui existe à l'époque. Et puis il faut savoir aussi que la Bohême-Moravie, l'air de rien, bah, c'est loin en fait des bases aériennes alliées. Et quand vous voulez avoir un mouvement de résistance, il vous faut des parachutages, il vous faut faire des liaisons. Et en gros, dans le protectorat de Bohême-Moravie, à part parachuter avec des gros porteurs, enfin des bombardiers, quoi, des choses, vous pouvez pas venir avec un petit Lysander comme en France, voilà, donc à l'image iconique, des petits atterrissages dans un champ, et hop, et on repart. Et en fait, ça, c'est on peut à peu près pas le faire. Et pendant une grosse grosse partie de la guerre, le front est loin, très loin. Donc, en fait, c'est le point quasiment le plus éloigné des bases alliées. Donc, c'est très compliqué. À partir de la conquête de l'Italie, ça s'arrange un peu, parce c'est un peu moins loin, mais ça reste quand même compliqué. Donc, en fait, il y a pas mal de raisons qui expliquent ces difficultés, la forte présence de germanophones aussi.
Bien
Enfin, il y
sûr.
a un certain nombre de. Alors, évidemment, OK, tous les germanophones du Bohême-Moravie ne sont pas des nazis convaincus, mais il y en a suffisamment pour que ça soit difficile de se dissimuler, pour qu'il y ait des informateurs dans beaucoup d'endroits, notamment dans les grandes villes, à Prague, à Brno. Il y a beaucoup de, il y a, c'est une grosse communauté germanophone, très minor, enfin, qui est minoritaire, mais qui est quand même présente. Bref. Donc, il y a plein de raisons qui expliquent, en fait, cette difficulté à organiser quelque chose. Au final, il y a à peu près un peu plus de 70 parachutistes qui vont venir de l'Ouest. Donc, les fameux Kubiš et Gabčík qui vont assassiner Heydrich, bah, ils sont pas très nombreux, en fait, autour d'eux, à pouvoir organiser des choses. Alors, il va y avoir quelques missions qui vont être un petit peu plus efficaces, mais dans l'ensemble, on arrive à une situation fin avril 45, début mai 45, où il n'y a pas les conditions pour un soulèvement massif de nature militaire. Voilà. C'est plus le fait que les Allemands partent qui permet de commencer à mettre des drapeaux tchécoslovaques aux fenêtres que la, le, leur, leur que l'action militaire des Tchèques.
Alors, il y a ce moment qui est très connu et je suis obligée de rappeler parce qu'en fait, ça se passe évidemment à la radio, dans les locaux où je me trouve au moment où on enregistre cette émission. C'est en fait cet appel en tchèque avec un mot allemand qui est lancé par ce présentateur qui s'appelle Zdeněk Mančar. D'ailleurs, il y a un de ses descendants qui travaille toujours pour nous en tant que réalisateur ici qui fait des pièces radiophoniques à 6 heures du matin. Il dit en fait au micro, je pravě sex, donc 6 hodin, il est 6 heures, et c'est en fait le signal du soulèvement. C'est lui qui va être d'ailleurs au micro pendant une partie de la journée, justement pour lancer des appels. Et en fait, comme finalement ça se passera également en 1968, pour le coup, la radio, c'est un peu un centre névralgique, puisqu'il va y avoir des combats en fait pour la radio entre la résistance, enfin entre les insurrectionnels et les Allemands. À partir de midi et demi, à peu près, il me semble, hein, que
Oui,
ça commence
exactement. Oui,
vraiment
c'est ça. C'est autour de midi, la radio appelle à l'aide parce que les Allemands sont sur le point de la reprendre. Juste pour contextualiser du point de vue stratégique, très rapidement, on a les troupes soviétiques qui s'avancent surtout en Silésie et dans le Brandenbourg et la Saxe, donc en fait, qui sont beaucoup plus au nord, les troupes soviétiques, hein, qui chassent les Allemands, qui prennent Berlin, qui encerclent Berlin. Elles sont présentes aussi en Moravie. Elles arrivent depuis l'Autriche en Moravie du Sud. Et à l'ouest, on a surtout les troupes de la 3e armée du général Patton, les troupes américaines, qui ont d'ailleurs un tout petit détachement tchécoslovaque issu des troupes tchécoslovaques à l'ouest, une centaine d'hommes, à titre d'éclaireur, qui arrivent en fait à travers la Shumava et qui vont libérer dès le 6 mai, Plzeň est libérée. Et en fait, enfin même d'ailleurs, Eger et Feb sont libérés enfin, je crois qu'Eger doit être libéré tout fin avril, enfin H en tchèque, doit être libéré autour du 30 avril. Et puis après, dans la foulée, enfin les Américains sont présents, les Allemands résistent peu parce qu'en fait, ils n'ont qu'une envie, c'est de tomber aux mains des Américains et pas aux mains des Soviétiques. Et donc, on a une force américaine tout à fait conséquente qui s'approche. Seulement, en coulisses, Eisenhower. Alors que Roosevelt vient de mourir, par ailleurs, ce qui complique un petit peu le processus décisionnel, Eisenhower, qui est le commandant suprême des troupes alliées à l'ouest, va échanger avec la Stavka, l'état-major soviétique, pour savoir s'il pourrait pas éventuellement aller filer un coup de main à Prague, hein, dès que la nouvelle de l'insurrection du 5 mai est connue, c'est-à-dire très vite. Les Tchèques, Koslovaques appellent, enfin, les Tchèques appellent à l'aide, je veux dire, les Occidentaux sont au courant. En plus, c'est un enjeu éventuellement fort pour l'après-guerre. Hein. Si on libère Prague, en termes de prestige, c'est pas mal. Et en fait, les Soviétiques sont intransigeants et refusent catégoriquement que les troupes américaines s'avancent. Alors, il va y avoir je crois, un tout petit convoi américain qui va
Oui.
s'avancer à la banlieue de Prague pour aller faire un petit tour et voir ce qui se passe, et ils repartent.
Ça, c'est un épisode que en fait peu de gens connaissent, même quand en fait on s'intéresse un tout petit peu, on sait quand même que globalement la Bohême de l'Ouest a été en partie libérée par les Américains, etc. Et elle est mentionnée dans la BD d'Emmanuel Guibert, la guerre d'Alan, qui retrace en fait l'histoire d'Alan Cope, hein, ce soldat américain. Et il a fait lui-même partie de ce petit détachement de 70 hommes hein, à peu près, qui va jusqu'à Prague et même un peu au-delà de Prague justement. Et ça, c'est incroyable parce que c'est vraiment, parler d'anecdotes, hein, mais c'est une petite anecdote, mais c'est quand même, voilà, on dit toujours les Américains sont allés à Plzeň en Bohême de l'Ouest, mais ils sont quand même allés un tout petit peu à Prague.
Un tout petit peu, mais ils n'ont pas assez désobéi, et
C'est
donc
ça.
ils sont pas arrivés massivement. Ce qui aurait été extrêmement simple pour eux. Ils étaient à 100 km, en quelques heures, c'était réglé. Hein. Les Américains étaient à Prague, et donc Patton, bon, pour une fois obéissant, bloqué, reste l'arme au pied, et de leur côté, les Soviétiques sont très en retard. Parce qu'en fait, les Soviétiques qui vont arriver à Prague, même si j'anticipe un peu, ils arrivent du nord-ouest, ils arrivent de Saxe. En passant par la trouée d'Oustie-Nadelabem, et voilà, enfin, en descendant par là. Donc, ils arrivent du nord-ouest, et vraiment, pour les insurgés tchèques, c'est un moment très compliqué. Alors, faut savoir que pendant l'insurrection, il y a à peu près 1 600 barricades qui sont érigées dans Prague. Donc, il faut quand même se faire une idée de ce que ça représente. Il y a même des instructions qui sont éditées pour comment faire une bonne barricade solide, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, en plantant des rails de tramway, d'une certaine manière, en mettant des pierres au milieu, etc. Il y a quand même il y a toute une dimension technique. Ce qui conduit aussi cette insurrection à ne pas être une insurrection, enfin, ne pas être un engagement militaire classique, dans le sens où il y a énormément de femmes, de gens mineurs, de civils qui n'auraient pas forcément été des combattants qui vont participer à l'érection de ces barricades, à la surveillance, au renseignement, aux liaisons, d'une manière ou d'une autre. Donc c'est un phénomène massif. Il y a une
Citadin.
participation massive
Ouais.
des citadins à cet épisode. Alors, y a un déficit d'armes, hein. Clairement, les insurgés tchèques manquent d'armes. Au début, ils arrivent assez bien, d'ailleurs, à prendre des casernes allemandes, à désarmer des soldats allemands qui se défendent pas très bien. Bon, tout le monde sait que la guerre est bientôt finie. On n'a pas forcément envie de mourir 2 jours avant la fin. Et donc, ils arrivent à désarmer du monde, mais le commandement allemand, donc notamment le général Rudolf Toussaint, qui commande les troupes allemandes, en fait, n'a pas tellement le choix. S'il laisse Prague aux mains des insurgés, en fait, Prague, surtout, c'est des ponts. Et les ponts permettent d'aller de l'Est vers l'Ouest. Et en allant de l'Est vers l'Ouest, il peut sauver des centaines de milliers de soldats allemands de la captivité soviétique. Il dispose, par ailleurs, je l'ai dit, de forces considérables. Il y a des forces, notamment SS, donc pas particulièrement bienveillantes, qui sont au sud de Prague avec des chars lourds. Donc autant dire que l'arsenal est là et les Allemands vont l'utiliser. Ils vont assez vite renverser la situation. Donc dès le 7 mai, la situation se corse pour les insurgés tchèques. Il y a déjà beaucoup de morts et les troupes tchèques disposent de quoi? Elles disposent des fusils déjà dépassés du Vladivostok, hein, de l'armée gouvernementale. Il y a une partie qui est encore stationnée à Prague. Il y a des forces anti-aériennes, voilà. Mais ça reste mineux, quelques forces de sécurité type gendarmes, policiers. Mais ça, voilà, c'est des gens qui ont des armes de poing, c'est insuffisant pour faire face, évidemment, à des troupes d'élite allemande. À ce moment-là, il y a un petit tournant temporaire, c'est le fait que les troupes, enfin une partie des troupes du général Vlassov, qui lui n'est pas à Prague, mais va décider, donc ce sont des Russes qui ont été capturés.
Oui, voilà, donc c'est des troupes russes en fait qui ont été capturées par les Allemands et qui vont se retourner en fait et combattre en fait pour les insurgés, quoi. Et avec l'espoir, en effet, peut-être après de pouvoir rejoindre les alliés, c'est-à-dire les Américains. Évidemment, les Soviétiques ont vu ça d'un très mauvais œil, en fait, cette petite armée, ce petit embryon d'armée de Vlassov.
Oui, absolument. Bah, l'ensemble n'est pas si négligeable, mais à Prague, oui, il y a, je ne sais plus combien, il doit y avoir l'équivalent d'une division. Enfin, c'est relativement important quand même à l'échelle du rapport de
Oui.
force, vu que c'est des hommes qui sont pour le coup bien, bien équipés, bien armés. Et donc, oui, officiellement, ça s'appelle l'armée russe de libération. C'est censé être une armée anti-soviétique, nationaliste russe, qui bon, est complètement inféodée aux intérêts allemands, donc elle n'aura aucun effet sur rien en termes d'intérêt des populations russes à l'époque. Mais ça permet à un certain nombre de soldats soviétiques d'échapper au camp de prisonniers qui sont des Monroirs, hein, surtout au début de la guerre, un peu moins après, mais enfin, ça reste quand même des conditions de vie très difficiles. Donc, ces soldats, donc slaves, russophones, pragmatiquement et peut-être aussi, peut-être aussi sincèrement, décident d'aider les insurgés tchèques, donc surtout sur la rive ouest de la Vltava. Donc, ils repoussent les Allemands, mais n'ayant pas obtenu des Américains en particulier, la possibilité de se rendre, comme vous l'avez dit, pour échapper à la captivité soviétique. Donc, en gros, pour les officiers, le peloton d'exécution, voire la pendaison, et pour les hommes, le goulag, hein, c'est à peu près ça leur sort. Ils décident de fuir vers l'ouest et d'essayer quand même de tenter leur chance. Voilà. Donc, à nouveau, le 8 mai, les choses commencent à se redégrader pour les Tchèques. Et c'est là où ils vont réussir à parlementer avec les Allemands. Donc il y a un Conseil national tchèque qui avait été constitué,
En avril.
voilà, en avril exactement, et qui est, on va dire, un organe civilo-militaire. En gros, c'est des officiers de carrière, des généraux, hein, qui s'occupent de la partie militaire. Et côté civil, c'est des représentants des différents partis, y compris du Parti communiste tchécoslovaque. Donc c'est quelque chose de transpartisan qui reflète d'ailleurs un peu le gouvernement de Košice, hein, constitué en avril 45. Et donc ce Conseil national tchèque va se mettre d'accord avec le général Toussaint pour laisser partir les Allemands avec leur armement léger vers l'ouest en échange d'une cessation des combats. Et donc, en gros, c'est essentiellement ce Conseil national tchèque qui va mettre un terme à l'insurrection, enfin, la résistance allemande. Et donc, le 8 mai, en fin de journée, il n'y a plus vraiment, vraiment de combat. Les Allemands se replient, ils sont à peu près laissés tranquilles pour qu'ils puissent partir. Et ça sera reproché évidemment au Conseil national tchèque après la guerre d'avoir en quelque sorte laissé les Allemands fuir, alors que c'était simplement une solution pragmatique pour éviter de continuer à un combat qui n'avait pas d'issue immédiate. Bon, sauf que dans la nuit du 8 au 9 mai 1945,
Soviétique arrive enfin.
les Soviétiques arrivent enfin depuis le nord-ouest, donc les Soviétiques du général Rybalko et les Lutchenko arrivent depuis le nord-ouest et rentrent dans Prague au milieu de la nuit à peu près. Mais en fait, ils n'ont pas de rôle dans la libération, enfin, au sens strict, ils n'ont pas de rôle dans la libération de la ville. C'est les Tchèques qui ont réussi à négocier, un peu comme les Français l'ont fait en août 44 finalement. Même si en août 44, l'arrivée, bien sûr, des forces de la 2e DB joue un rôle important.
Le 8 mai, en fait, c'est les Tchécoslovaques, donc le Conseil national tchèque. Et il me semble, à sa tête, c'est le général Kutl
Oui,
Vachel.
il y a Chmerkovski aussi parmi les membres importants pour
Et qui
le.
signe donc la capitulation avec Rudolf Toussaint, donc le chef de l'armée allemande, qui
Alors,
sera.
c'est pas une capitulation, hein. C'est un
Ah,
protocole
c'est un protocole.
de non-agression d'une certaine manière. Et où parce que les Allemands ne capitulent pas devant les Tchèques. Il faut imaginer pour des Allemands qui ont occupé la Bohême-Moravie pendant 6 ans, ils capitulent pas devant les Tchèques, ils obtiennent la possibilité de quitter Prague
C'est ça.
sans être harcelés excessivement. Alors évidemment, en plus, tous les Allemands vont pas être au courant de ça parce qu'il y a des garnisons allemandes qui sont un peu isolées, encerclées. Donc les combats cessent pas totalement, mais globalement, ça permet aux Tchèques de souffler en attendant les Soviétiques et aux Allemands concernés de partir, ce qui n'a évidemment aucun, enfin, ça évite d'avoir des morts inutiles et ça n'a aucun impact sur la fin, là, sur l'issue de la guerre et sur la suite forcément.
Mais le fait,
Voilà.
justement, comme vous disiez, en fait, les Soviétiques arrivent finalement donc en nombre depuis le nord, depuis le nord-ouest, seulement le 9 mai. Le fait que justement ce soit les Tchèques, que finalement ça, la fin de la guerre se fasse entre les Tchèques et les Allemands, ça va être reproché finalement peut-être par les Soviétiques un peu plus tard aux Tchécoslovaques.
Oui, alors pas tant par les soviétiques que par les communistes tchécoslovaques, à la
Oui.
limite, qui vont en profiter. Je veux dire, tous les prétextes ensuite sont bons pour réduire l'importance et la signification de la participation de la résistance non communiste. Alors même si dans le Conseil national tchèque, il y a aussi des représentants communistes, hein, mais pour réduire cette importance au profit de l'expérience dominante qui va être mise en avant, à savoir évidemment les troupes tchécoslovaques sous commandement soviétique à l'Est et la résistance intérieure communiste. Poutchik et compagnie, enfin voilà, il y a tout un. Après, on le retrouve partout en Europe. Hein. Il y a une mythologie résistante qui se construit, qui est asymétrique, qui est déséquilibrée partout. Mais alors, dans les pays qui sont sous influence communiste et soviétique, elle l'est particulièrement, forcément. Voilà. Donc c'est un peu un prétexte, mais ça évite des destructions en fait dans Prague, parce que à Prague, l'hôtel de ville va être en partie brûlé. Il va y avoir quelques destructions d'immeubles sur la place Venceslas. Mais globalement, la ville s'en sort à peu près intacte, donc contrairement évidemment à Varsovie, qui va connaître une destruction
Rasé, ouais.
systématique.
Juste
Oui.
encore une question, parce que vous disiez justement évidemment que dans le Conseil national tchèque, il y a des communistes. J'avais juste envie de savoir, peut-être proportionnellement, au niveau de la résistance, au niveau des insurrectionnels, finalement, quelle est la proportion finalement des communistes à l'intérieur de ce groupe d'insurrectionnels?
C'est pratiquement impossible de le savoir,
Ah.
surtout que. Non, mais parce qu'il y a à peu près 25 000 à 30 000 combattants côté tchèque, et il y a à peu près 100 000 volontaires qui les aident dans ces tâches de construction de barricades, de ravitaillement, etc. Et en fait, le Parti communiste tchécoslovaque, il est évidemment interdit depuis 1938 ou 39, je ne sais plus exactement. Enfin, je sais plus, c'est déjà sous la Deuxième République ou sous le. Enfin, en tout cas, ça fait des années qu'il est interdit, qu'il est persécuté. Qu'il a eu un recrutement faible, hein, très faible. Le recrutement de communistes, il va se faire massivement à la libération, quand ça devient moins dangereux. Et puis que le Parti communiste semble avoir changé aussi de visage, être plus nationaliste, moins radical. Donc en fait, les communistes sont, les membres du Parti communiste sont archi minoritaires dans l'insurrection. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la participation des ouvriers est telle que, voilà, bon, après, c'est des catégories un peu généralistes, mais on sait que la participation des ouvriers, elle est importante. Les catégories populaires, au sens large, sont très largement surreprésentées, ce qui est logique, hein, pour une grande ville populaire comme Prague, hein, donc, dans les participants. Mais à côté de ça, les militaires, les forces de sécurité, enfin, les forces de police et de gendarmerie, ils sont aussi bien représentés, hein, parmi les participants, ce qui est logique en raison de leur expertise. Donc voilà. Donc en fait, la question de la filiation partisane ou idéologique, elle
Il
se pose pas tellement à ce moment-là.
y a
Non,
pas ça.
c'est pas très important. C'est simplement la direction du mouvement est multipartisane, mais voilà.
Pour le bilan, on arrive donc le 8 mai ou le 9 mai, voilà, les jours qui suivent. J'imagine que évidemment c'est le moment de faire alors les comptes des destructions matérielles, mais aussi on se rend compte en fait du nombre de gens qui blessés, morts, etc. Est-ce qu'on a un ordre d'idée en fait?
Oui, on sait qu'il y a à peu près, il y a à peu près 3 000 morts environ, ce qui est vraiment pas négligeable, hein. Il faut imaginer que c'est un événement qui dure 3 jours en gros. Donc, si on fait 1 000 morts par jour, c'est quand même très significatif, sachant qu'il s'agit surtout de combattants non professionnels. Alors dedans, il y a 2 généraux effectivement, il y a quelques dizaines d'officiers, de sous-officiers qui meurent, hein, d'anciens sous-officiers, d'anciens généraux en réalité, parce que c'est que des gens qui étaient à la retraite d'office pendant l'occupation. Et donc on a à peu près donc 3 000 morts. On sait qu'on a environ 3 000 blessés lourds ou légers, mais bon, c'est difficile à dire. Sans doute plus en réalité, c'est des estimations qui datent de l'immédiate après-guerre, mais voilà. Donc on a quand même un bilan humain qui est lourd. Alors qui est lourd par rapport à l'événement, qui est lourd par rapport à la société tchèque sous l'occupation qui est confrontée à quelques bombardements non négligeables de la part des Américains, c'est vrai, quelques combats, mais ça reste, voilà, c'est l'événement le plus meurtrier en fait pour les Tchèques, l'événement militaire le plus meurtrier en réalité. Et donc c'est aussi un moyen de gagner une forme de légitimité, puisque même après la guerre, il faut imaginer qu'il y a même une association, enfin une section des combattants des barricades qui va se constituer au sein de la nébuleuse des anciens combattants de tous bords, donc les anciens légionnaires, les nouveaux légionnaires en quelque sorte, donc les combattants de l'exil combattant de la Deuxième Guerre mondiale, la section des partisans, alors partisans tchèques, donc c'est pas non plus très impressionnant. Et puis il y a cette Združení barikádníků qui va se créer aussi. Donc c'est pour dire que c'est quand même quelque chose de marquant, hein. Culturellement, en termes de légitimité, ça compte pas mal.
Et c'est marquant finalement, même dans le paysage, puisque aujourd'hui, en fait, quand on se balade dans Prague, et notamment dans certains quartiers, en fait, on voit ces petites plaques qui sont, ou ces petits mémoriaux, en fait, qui sont ça et là, en fait, disséminés dans la ville, et qui chaque fois, en fait, sont en général datés d'ailleurs, soit du 5 mai, soit du 6 mai, enfin voilà, avec le nom de la personne qui est tombée. Et en général, d'ailleurs, c'est très entretenu, hein, on marque, enfin, j'ai rarement vu des choses aussi entretenues parfois pour des tout petits mémoriaux, par exemple, en France. Ici, c'est vraiment très entretenu, il y a toujours une fleur ou une couronne, etc. Et c'est un peu partout dans la ville comme ça.
Oui, mais c'est un événement massif. En fait, il faut savoir qu'après la guerre, il va y avoir un certain nombre de groupes de résistance, on va dire, au sens large, qui vont se constituer. Il y en a plus de 700 qui sont recensés dans les archives nationales, aux archives nationales tchèques. Certains de ces groupes comportent un résistant et certains de ces groupes comportent 2 000 partisans. On est sur des échelles très différentes. Et ça concerne à la fois les pays tchèques et la Slovaquie. Mais la plupart des groupes, souvent petits, sont côté tchèque. Et il y a plus de 50 groupes de résistance qui comportent le nom de la ville de Prague, en fait, dans leur nom de groupe. Alors, souvent avec un quartier associé à un quartier, Prague 13, voilà, Prague Mimoň. Enfin, il y a plein comme ça, de quartiers de Prague qui ont eu leur organisation quasi spontanée. Alors, telle petite, enfin, petite organisation de résistance va s'emparer d'un dépôt de médicaments, l'autre va s'emparer d'une caserne, d'une station ferroviaire. Enfin, voilà. Et en fait, tous ces groupes ont joué un rôle, ont contribué en fait à paralyser complètement les Allemands pendant l'insurrection. Ce qui fait que, effectivement, c'est quelque chose de très, comme on dirait en anglais, grassroots, hein, c'est vraiment quelque chose qui émane de ces différents quartiers où chacun de ces groupes, plus ou moins bien coordonnés, c'était pas évident à l'époque, va participer à l'insurrection. Et donc c'est quelque part assez logique, il en reste une mémoire aussi locale, parce que ça a vraiment été un événement important, enfin massif et local. S'il y a plus de 100 000 personnes qui ont participé à l'insurrection à l'époque, faut se dire que ça représente peut-être, je sais plus quelle était la population de Prague à l'époque, mais ça représente peut-être 10-20% facile de la population de l'époque. Donc voilà, avec les familles, évidemment, ça veut dire que tout le monde quelque part, enfin beaucoup de gens ont un lien finalement avec cette insurrection.
Avec cet événement. Dernière
Avec cette...
question, peut-être plus générale, et vous l'avez d'ailleurs un tout petit peu évoqué tout à l'heure. Il y a la question de la mémoire, en fait, de la libération avec un grand L, et de cette libération-là de Prague aussi. C'est une mémoire qui est à la fois volée, tordue, etc. Enfin, ça part dans les deux sens, c'est-à-dire en effet après la Deuxième Guerre mondiale, enfin surtout après. L'arrivée au pouvoir du Parti communiste, il y a évidemment toute cette partie de la participation de l'armée américaine qui sera occultée, hein, puisque on part du principe que c'est les soviétiques qui ont libéré. Aujourd'hui, évidemment, c'est évidemment plus comme ça depuis 1989, mais il y a toujours des querelles mémorielles, hein, puisque il faut se souvenir qu'il y a quelques années, il y avait eu des escarmouches verbales entre Moscou et Prague, notamment autour d'un mémorial en hommage à cette petite armée de Vlassov. Cette question de la mémoire, ça reste très très important en fait, hein, dans l'histoire tchécoslovaque.
Ça concerne un peu toute l'Europe en général. La particularité, effectivement, de la Tchécoslovaquie, c'est qu'il y a une participation occidentale à cette libération. Cette participation occidentale, soyons francs, elle est symboliquement importante, mais à l'échelle de la guerre, à l'échelle des effectifs engagés, c'est vrai que c'est essentiellement l'armée soviétique, alors au sens, enfin, l'armée, les forces sous commandement soviétique, qui incluent donc des Tchécoslovaques, Mais il y a aussi l'armée roumaine, dont on sait qu'elle a participé à la libération de la Tchécoslovaquie, des unités bulgares. Voilà, il y a bien sûr toutes les autres troupes. Hein, il y a deux grandes armées polonaises hein, qui participent aussi à la libération de l'Europe centrale, des troupes yougoslaves. Donc on est sur toujours dans une sorte de coalition, mais tellement asymétrique qu'on ne se rappelle que de l'armée soviétique pratiquement. Et donc d'un certain nombre de violences qui ont accompagné aussi ces libérations. Et donc la place des États-Unis est assez intéressante parce que il y a eu, de manière presque caricaturale, une sorte de retour de cette mémoire qui était, bon, qui n'avait pas complètement disparu localement, évidemment, mais il y a eu des petites publications très anecdotiques à compte d'auteur dans les années 90-2000 sur cette participation américaine. Hein, et donc, évidemment, c'est aussi intéressant parce que ça a contribué à raviver un intérêt. Alors, ce n'est pas encore un intérêt académique très fort, on va être franc, les historiens ne se sont pas beaucoup emparés de la question. Question, bon, qui reste, effectivement, qui n'est pas hyper centrale. Dans les archives américaines, il y a des choses là-dessus, hein, il y a des échanges. Voilà, j'en ai parlé dans ma thèse. C'est vrai que on peut trouver des éléments pour parler de ce petit moment très court où les Américains sont presque libérés Prague. Hein, on en a parlé un peu tout à l'heure. Mais sinon, non. Ce qui est amusant, c'est que si vous vous rappelez, dans les années 2000, à l'époque des débats autour du radar antimissile qui devait s'installer sur le sol tchèque. Et à l'époque où c'était Vlasta Parkanova, je crois, qui était la ministre de la Défense, il y avait eu cette fameuse chanson Dobrý den prapore zvězda pruhu, enfin Dobrý den radare, globalement, toute cette histoire-là. Et dans le clip fait par ce chanteur, je me demande si c'est pas Jan Vychital, mais je ne sais plus. Enfin bref, il y a un chanteur tchèque. Qui avait fait, oui, c'est ça, ouais, c'est Honza Vychital, qui avait donc fait un clip en reprenant Dobrý den Majore, la chanson en hommage à Gagarine, un peu jazzy, qui avait été composée dans les années 60, quand Gagarine avait visité la Tchécoslovaquie communiste, bien sûr, après son passage dans l'espace. À l'époque, c'était une star mondiale. Et donc, il y avait une chanson qui avait été faite à l'époque, assez moderne, et donc. Vraiment avec des résonances de jazz. Et en fait, cette chanson a été reprise dans les années 2000 avec un clip assez vulgaire qui montre justement le monument en hommage aux Américains de Plzeň. Il y a des femmes en sous-vêtements avec les couleurs du drapeau américain dessus, des gens qui se baladent en jeep. Voilà. Et l'idée, c'était vraiment de dire les Américains sont nos amis, vive l'OTAN. Enfin, à l'époque, bon, alors évidemment, dans le contexte actuel, ça trouve une résonance assez bizarre. À la fois, on a envie de dire oui, effectivement, l'OTAN, c'est bien. Toutes ces débats autour de la défense de l'Europe contre, à l'époque, on prétendait que c'était contre l'Iran, mais tout le monde savait que c'était dirigé plutôt contre la Russie. Enfin, en tout cas, pour se protéger de la Russie, si on le reformule. À l'époque, ça paraissait excessif. Maintenant, évidemment, avec l'invasion de l'Ukraine, ça le paraît moins. Ça paraît moins. Mais voilà, il y a eu une volonté de remettre un peu la contribution américaine au centre du jeu, qui était une contribution qui avait l'avantage de pas être salie en quelque sorte par la mémoire de Munich. Enfin, les Américains, c'était parfait parce que les Américains, ils n'étaient pas là à Munich. Ils ont participé à la libération du territoire tchécoslovaque, modestement, mais quand même. Puis c'était le champion de la lutte contre l'URSS pendant la guerre froide. Donc tout était bon. Bon, voilà, les choses ont un peu changé. Mais voilà, la mémoire sert aussi à ça. Et ça a pu produire des choses assez bizarres d'un point de vue artistique et esthétique. Mais bon, ça, c'est une autre affaire.